مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Donc je voulais faire un petit rappel aujourd'hui, inshallah, ce soir, concernant le mois de Dhul-Hijjah et le jour de Arafat et le Hajj d'une manière générale. Et les mérites qu'Allah a donné à ces jours de Dhul-Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard » منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah dit dans un verset du Coran إن عدة الشهور certes le nombre de mois عند الله يوم خلق السماوات والأرض auprès d'Allah le jour où il a créé les cieux et la terre 12 mois et les 12 mois c'est les mois lunaires. Allah parle des mois lunaires parce que les mois lunaires c'est on ne peut que les constater. On voit la lune et on sait. Ce n'est pas comme les mois solaires où l'intervention humaine peut avoir lieu. Les mois lunaires, c'est la constatation de la lune. Dans le livre d'Allah, le jour où il a créé les cieux et la terre. Donc, la création, le dessein d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah a créer la stratégie selon laquelle ce monde va fonctionner. Bien sûr, on sait que la Terre n'est pas devenue la Terre comme ça, la Lune n'est pas devenue la Lune comme ça. Ça a évolué avec le temps et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte, la Terre était une boule de fer, de feu. Et petit à petit, ça s'est refroidi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans son destin initial,
quand il a créé, quand il a décidé la création, il savait, subhanahu wa ta'ala, dans son savoir immense, que la terre sera la terre, elle sera, la lune sera la lune, et le mois, les gens qui vont habiter la terre vont calculer les mois, soit selon le soleil, soit selon la lune. En réalité, il n'y a pas beaucoup de différence entre le calcul solaire et le calcul lunaire, hein, parce que l'année lunaire, elle fait 355 jours, et l'année solaire, elle fait 365 jours, avec bien sûr virgule quelque chose. Donc le décalage entre l'année solaire et l'année lunaire, c'est 11 jours. C'est pour ça que Ramadan, il bouge chaque année. Le Hajj, il bouge chaque année. Pourquoi ? Parce que chaque année, il va avancer de 10 jours ou 11 jours. Et au bout de 33 ans, Ramadan, il fait le tour. Imaginons que cette année, là, Ramadan, on l'a eu en mois de février. Ben, dans 33 ans, il y aura Ramadan au mois de février. Et Ramadan, il va se décaler sur toute l'année. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que le nombre de mois auprès de lui, c'est de 12 mois. Le premier mois, c'est le mois de Muharram, mois de Safar, mois de Muharram selon le calendrier égyrien, selon le calendrier musulman. Le premier mois, c'est le mois de Muharram. Le deuxième mois, c'est le mois de Safar. Le troisième mois, c'est le mois de Rabi' al-Awwal. Hein, l'événement le plus important de Rabi' al-Awwal, c'est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième mois, c'est le mois de Rabi' al-Thani. Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani. Le cinquième mois, c'est Jumada al-Ula ou Jumada al-Thani. Donc vous avez Jumada al-Ula ou Jumada al-Thani, donc c'est le sixième. Et après, vous connaissez tous, le septième mois, c'est le mois de Rajab. D'accord, le mois de Rajab, l'événement le plus important du mois de Rajab, ça s'est passé le 27e jour de Rajab. Qu'est-ce qui s'est passé le mois de Rajab? Un événement important. Le mois de Rajab, le 27e jour de Rajab, la 27e nuit de Rajab. C'est
le Ghazwa.
Non.
C'est pas la révélation.
C'est le voyage nocturne et l'ascension vers le... Ça c'est le 27e Rajab, d'accord. Après, on a le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, c'est un mois très important. C'est juste celui d'avant Ramadan. Et on sait que le 15e jour de Sha'ban, c'est un jour béni. Où Allah subhanahu wa ta'ala donc, bénit un jour particulier, le 15e jour de Sha'ban. Sha'ban, c'est le 8e jour. Et le 9e jour, c'est le mois de Ramadan. Vous connaissez tous les bienfaits de Ramadan. Et après Ramadan, qu'est-ce qu'il y a?
Shawwal.
Très bien. Après Shawwal, Dhul Qa'da. Et après Dhul Qa'da,
Dhul
Hijja. Et donc là, on est Dhul Hijja. Le 12e mois de l'année lunaire, c'est Dhul Hijja. Et donc, Dhul Hijja, les gens ne connaissent pas ses mérites. On sait qu'il y a des choses importantes pendant le Dhul Hijja, mais quand je vous parle des 10 dernières nuits de Ramadan, vous savez tous que les 10 dernières nuits de Ramadan sont des nuits importantes, on doit prier à Laylatul Qadr, la 27e nuit, d'accord ? On connaît tous les mérites des 10 dernières nuits de Ramadan, mais on ne connaît pas assez les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijja. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les cite. Allah ne cite pas les 10 dernières nuits de Ramadan dans le Coran al-Karim, mais Allah cite les dix premiers jours de Dhul Hijja dans le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشَرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ » وَالْفَجْرِ, Allah jure par le temps de l'aube. « وَلَيَالٍ عَشَرٍ » et les 10 nuits. Et les savants sont unanimes pour dire que les 10 nuits dont parle Allah ici, c'est les 10 nuits de ce mois-ci-là, Dhul Hijja. Le mois de Dhul Hijja, les 10 premières nuits ou les 10 premiers jours de ce mois sont des jours très très importants. Allah dit « Walayalin ashr ». Les savants ils disent « Les nuits les plus importantes, c'est les nuits, les 10 dernières nuits de Ramadan. Et les jours les plus importants, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijja, les jours les plus importants. Pourquoi ? Parce que pendant ces jours-là, vous avez le jour de Arafat. On est dans un mois sacré. Les mois sacrés sont au nombre de 4. Allah nous dit dans le Coran Karim, Minha arba'atun hurum. 4 mois sont sacrés. Le premier mois, c'est Dhul-Qi'da. Le mois, le 11e mois. Et après, Dhul-Hijja, le mois actuel. Et Muharram, le premier mois de l'année lunaire. Muharram, c'est le troisième mois qui est sacré. Et après, le quatrième, il est où? C'est lequel, le quatrième?
Safar.
Rajab. C'est le quatrième mois. Même si Rajab, c'est le septième mois. D'accord? Rajab, c'est le septième mois. Et on a le septième mois, et c'est un mois sacré. Le onzième mois, c'est un mois sacré. Le douzième mois, c'est un mois sacré. Et le premier mois, c'est un mois sacré. D'accord? Il faut bien les retenir. Donc on a Rajab, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja et Muharram. Les trois, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja, Muharram, se suivent. D'accord? Parce que c'est le 11e, le 12e et le 1er. D'accord? Les trois se suivent. Et Rajab, il est tout seul. Parce que c'est le 7e mois. 2 mois avant le mois de Ramadan. Et ces mois sont des mois sacrés. Les Arabes avaient l'habitude de ne... Même Allah dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et les Arabes avaient l'habitude de ne pas déclarer la guerre pendant les mois sacrés, les 4 mois sacrés. Donc c'est des mois bénis qui ont de l'importance. Donc un mois lunaire fait 29 à 30 jours. Il ne peut pas dépasser 30 jours. C'est pas comme le mois solaire où on a décidé de dire 31 jours ou 28 jours. Un mois lunaire, c'est la lune qui commande. D'accord? C'est la lune. C'est soit 29, soit 30. Impossible de dépasser 30 et impossible de descendre au-delà de 29 jours. Allah nous dit, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Et il en a déterminé les phases. Les phases de la lune. La lune, on voit un croissant. Il faut observer. La lune, c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous donne, il parle de la lune énormément dans le Coran al-Karim. Allah nous parle énormément de la lune. Donc, parce que c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette lune. Sans la lune, la petite lune là, ben la vie sur terre serait impossible. Donc, s'il n'y avait pas la lune, la vie sur terre serait impossible. Allah dit, et on a déterminé des phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Donc, s'il n'y avait pas un moyen de calculer et de voir, ben, on saurait pas calculer le temps. Allah nous a donné un moyen simple. Tu regardes et tu peux estimer le jour. Quand tu regardes la lune, tu peux estimer le jour. Quand la lune est trop, quand le croissant est trop petit, tu sais qu'on est dans le deuxième ou le troisième jour. Et le croissant commence petit à petit à grandir jusqu'à devenir pleine lune. Quand il est pleine lune, on sait que demain c'est quel jour? 14 ou 15, d'accord? 14 c'est pleine lune, 15 c'est pleine lune aussi, et 16 aussi ça commence à diminuer, mais de l'autre côté, d'accord? Si vous voulez connaître... Hein, si vous avez un croissant et vous ne savez pas est-ce qu'on est au début ou à la fin, ça dépend de l'heure. Si vous le voyez juste après le maghrib, ou vous voyez le croissant juste après le maghrib, c'est-à-dire qu'on est au début du mois. Et si vous mettez un bâton comme ça, vous aurez soit un B, soit un P. Premier. Hein, B ou P. Et la lune, elle commence comme ça, d'accord? Et si vous mettez un bâton, vous aurez soit un B ou un P. Ça dépend de comment vous le... Mais à la fin, comment le croissant il va devenir? Donc, le croissant il commence comme ça, et après il va s'agrandir jusqu'à devenir une pleine lune, et après il va diminuer de ce côté-là. D'accord? Jusqu'à qu'il sera croissant comme ça. Si vous mettez un bâton, ça serait soit un D, soit un Q. D'accord? Et le D, c'est le dernier. Le P, c'est les premiers. D'accord? Comme ça, au moins, vous avez quelque chose de visuel. Quand vous observez la lune, on sait quel jour on est. Allah a créé cela en toute vérité. Il expose les signes pour des gens, pour les gens doués de savoir, dans l'alternance de la nuit et du jour, et aussi dans tout ce que Allah a créé dans les cieux et la terre. Il y a des signes, certes, pour les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps, dans plusieurs versets, « وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ » Allah jure par le temps qui passe. C'est lui qui a fait alterner le jour et la nuit pour celui qui veut s'en souvenir ou qui veut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Furqan. Et d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites le bien en permanence et saisissez les opportunités gracieuses que Dieu vous offre. En effet, Allah offre des opportunités et touche par sa grâce qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Rapporté par At-Tabarani. Et ce hadith est très important parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah a des occasions, Allah a donné de l'importance à des moments, à des endroits, à des objets. D'accord ? Et vous devez, en tant que musulmans, leur donner de l'importance. D'accord ? Allah a donné de l'importance à Laylatul Qadr. Il a choisi cette nuit pour révéler le Coran Karim. Et puisque Allah lui a donné de l'importance, toi, en tant que musulman, cette nuit ne doit pas passer comme une nuit ordinaire. Demain, c'est Arafat. Et Arafat, c'est un moment vraiment important. Donc Allah dit وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. Tout à l'heure, je n'ai pas fini l'explication des versets. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرِ. الْلَيَالِ الْعَشْرِ, c'est les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, c'est quoi? Ben, vous avez plusieurs explications. Mais parmi les mufassirines, ils disent الشَّفْعِ, c'est عيد الأضحى, c'est le 10e jour. وَالْوَتْرِ, c'est le 9e jour de Arafah. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. Donc, Allah jure par ce jour-là. Et quand Allah jure par quelque chose, c'est pour lui donner de l'importance. Donc, Allah a donné de l'importance à des moments. Allah a donné de l'importance à des lieux. Les mosquées. La mosquée de la Mecque, la mosquée de Médine, la mosquée de Jérusalem. Les mosquées d'une manière générale, d'accord ? Allah a donné de l'importance à des objets. Al-Ka'ba. Pourquoi on tourne autour de la Ka'ba ? Pourquoi on va toucher le Hajar al-Aswad et essayer de l'embrasser et de prendre la bénédiction? Pourquoi? Hein? C'est pas comme ça, c'est parce que Allah nous a dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc Omar al-Khattab, un jour, il parle à le Hajar al-Aswad, il dit ben, je sais que tu ne peux pas me nuire ou m'être utile, mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser et c'est pour ça que je t'embrasse. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on donne de l'importance à le mushaf sharif, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à des objets, ben c'est parce que Allah leur a donné de l'importance. Et si toi, tu ne leur donnes pas d'importance, tu négliges les rites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit « ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ » Celui qui donne de l'importance au sha'a'ir. Sha'a'ir, c'est quoi? Ben c'est soit un jour, soit un endroit, soit un objet auquel Allah a donné de l'importance. D'accord? La mosquée, quand tu rentres à la mosquée, c'est sha'ir min sha'a'irillah. C'est un endroit sacré, c'est un endroit béni. Tu dois respecter les règles de la mosquée. Quand tu prends le mushaf, aussi, tu sais qu'il fait partie de sha'a'irillah. Donc tu dois le prendre, en prendre soin. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui me raconte en Afghanistan, il me dit, subhanallah, c'est pas des Arabes, c'est des musulmans, mais tu ne trouveras jamais le Coran par terre. Jamais. Et le Coran, quand dans une chambre, dans une maison, ils vont mettre un lieu, un endroit le plus élevé, et c'est là où ils mettent le Coran. Ils ne mettent pas le Coran à n'importe quel endroit. Ils choisissent un endroit le plus élevé pour mettre le Coran al-Karim. Subhanallah. Juste comme ça, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah nous dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Il dit ça fait partie de la crainte et de la piété des cœurs. Toi, tu donnes de l'importance aux objets, aux endroits, aux moments auxquels Allah a donné de l'importance, ben ça te rajoute dans ton cœur de la crainte et de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas dire que c'est juste un livre comme un autre, ou juste un tapis comme un autre, le tapis de la prière. Nous, quand on finit la prière, on le met à un endroit, d'accord ? Ce n'est pas juste un tapis comme un autre. Même si c'est, en réalité, à l'origine, c'est un tapis comme un autre. Mais puisque moi je l'utilise pour la prière, ben il va prendre un peu de sacralité, un peu de parce que c'est lié à une adoration, d'accord ? Al-Mushaf, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'écrire le Coran dans ce livre-là, il était comment ? Juste un livre comme ça, hein, blanc, il n'y a rien. Mais quand on a choisi d'écrire le Coran, ben tu ne peux pas le toucher si tu n'as pas tes ablutions. Tu ne peux pas le toucher si tu n'as pas tes ablutions, d'après un certain. Il est recommandé, quand tu prends le Mushaf al-Karim, d'avoir ses ablutions. Il est obligatoire d'avoir ses grandes ablutions, et il est recommandé d'avoir les petites ablutions. Et donc, pourquoi on parle des jours importants ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna lillahi nafahat »« Inna lillahi nafahat » Allah met sur votre chemin des occasions, des jours où sa miséricorde descend d'une manière abondante. Hein? Il dit « Exposez-vous ». Exposez-vous, c'est-à-dire quoi exposez-vous? Ouais. Soyez au bon endroit, soyez au bon moment. Hein? Si Allah vous a demandé de jeûner, jeûnez. Si Allah vous a demandé de faire takbir, faites le takbir. Peut-être juste le jeûne d'un jour va te donner le bonheur éternel. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu sa miséricorde ce jour-là. Et était au bon endroit. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit un hadith. Il dit à ses compagnons, quand les gens se réunissent pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des groupes d'anges qui voguent dans le ciel. Et ces groupes d'anges ont une seule mission. C'est de trouver des gens comme nous, alhamdoulilah, on est en train de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils trouvent des gens en train de parler de Dieu et se renseigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre leur religion, de lire le Coran, ben, les anges vont dire venez, venez, on a trouvé ce qu'on cherche. Ils vont entourer ces gens-là et vont faire un cercle de lumière, d'accord ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand il y a quelqu'un parmi ces gens-là, on lui a posé la question, il dit, mais si parmi eux, il y a quelqu'un qui est venu, mais pas dans l'objectif d'étudier, pas dans l'objectif d'invoquer Allah, mais c'est juste parce qu'il avait besoin d'une autre personne, d'accord ? Il est de passage, il avait besoin d'une autre personne, et il était assis avec eux, et que les anges sont descendus à ce moment-là. On lui a posé la question, est-ce que cette personne qui n'est pas venue vraiment pour étudier, ni pour invoquer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à lui aussi Allah pardonne. À lui, à cette personne qui était là juste par de passage, pourquoi ? Parce qu'il était là au bon moment. Parce qu'il était avec des bonnes personnes. C'est pour ça que nafahatullah, les occasions qu'Allah nous donne, il ne faut pas les rater. Et parmi les plus grandes occasions qu'Allah nous donne pendant le mois de l'Hijjah, plusieurs. Depuis le début jusqu'au 14e jour. D'accord ? Depuis le début jusqu'au 13e jour. Tout ça, c'est des jours bénis. Pourquoi ? Parce que les 10 premiers jours, on a parlé de leur bénédiction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le conseil de multiplier takbir. Après chaque prière, vous dites Allahu Akbar, Allahu Akbar. Multipliez takbir. Quand vous venez à la mosquée, faites takbir. D'accord ? Ça, c'est les 10 premiers jours. Vous avez le jour de Arafat, il est très recommandé de jeûner. Très recommandé de jeûner. Et jeûner, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est demain. Si on peut jeûner et passer cette journée en adoration, jeûner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit j'espère. J'espère que ce jeûne soit l'expiation d'une année précédente et d'une année à venir. Donc le fait de jeûner demain avec sincérité, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, même si la journée fait 16 heures ou 17 heures, même si c'est difficile, même s'il fait très chaud, mais on jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala un jour, Allah distance l'enfer de lui de 70 ans. Un jour de jeûne sur le rogatoire, et tu es distancé, hein, tu es éloigné de l'enfer 70 ans. Ça c'est un jour ordinaire, un jour ordinaire. Vous imaginez un jour comme celui de demain, qui est un jour de Arafah. Arafah, on a des hadiths qui disent que aucun jour shaytan n'est humilié comme le jour de Arafah. Shaytan, c'est le jour de l'humiliation pour lui. Parce qu'Allah lui a ordonné de faire et il n'a pas fait. Alors qu'Allah a ordonné aux gens de venir jusqu'à la Mecque, de se prosterner, de faire des invocations, mais ils l'ont fait. Donc il est humilié. Et il n'y a pas un jour où Allah pardonne et délivre des gens de l'enfer définitivement comme le jour de Arafah. D'accord ? Et ce n'est pas uniquement réservé aux pèlerins. On peut croire que ça c'est réservé aux pèlerins. Non, il n'y a aucun hadith qui dit c'est réservé. Il dit Yaoum Arafah. Pour les pèlerins et pour les non-pèlerins. Nous aussi, on peut profiter de ce jour-là. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas à Arafah ce jour-là. Parce que le demain, hein, demain matin, les gens vont faire la prière de l'Fajr à Mina. D'accord ? Et ils peuvent, à partir de là, partir jusqu'à Arafah et rester toute la journée à Arafah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Hajju Arafah. Le pèlerinage, c'est Arafah. Donc, celui qui rate Arafah, rate le Hajj. Imaginez que quelqu'un est tombé malade et qu'il n'a pas pu aller à Arafah. De toute façon, Hajj, il faut qu'il le refasse l'année prochaine parce qu'il n'a pas fait de Hajj. D'accord ? C'est pour ça que parfois tu trouves des ambulances qui viennent jusqu'à un peu avant le Maghrib, juste pour déposer quelqu'un quelques minutes à Arafah et repartir après. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un est malade et qu'il ne peut pas venir, son hajj n'est pas valable. Donc ils vont le prendre en ambulance pour le ramener dans la zone de Arafah. Arafah c'est une grande zone de plusieurs kilomètres carrés. Et celui qui n'est pas à Arafah pendant ce temps-là, ben son pèlerinage n'est pas accepté. Il faut absolument être à Arafah pour le pèlerinage avant le Maghrib. Il ne faut pas être, quand tu arrives après le Maghrib, il faut être là avant le Maghrib. Et les gens vont généralement du matin jusqu'au soir, jusqu'à Salat al-Maghrib. Et après Salat al-Maghrib, qu'est-ce qu'on fait ? Al-Ifada. Al-Ifada, c'est quoi ? C'est de rentrer de Arafah vers Mina. Vers Muzdalifa d'abord. Il faut marquer une halte à Muzdalifa obligatoirement, s'arrêter à Muzdalifa, faire la prière de Maghrib et d'Isha عند المشعر الحرام, à côté de la mosquée de المشعر الحرام, citée dans le Coran Karim, et après dormir jusqu'au Fajr, pour ceux qui peuvent le faire. D'accord ? Et pour ceux qui ne peuvent pas le faire, c'est difficile pour eux, ils peuvent directement, après avoir marqué la halte de Muzdalifa, partir jusqu'à Mina et commencer les rites pendant les 3 ou les 4 jours qui suivent Yawm al-Nahr, c'est Yawm al-Eid, c'est le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, nous on fait l'Eid, mais les pèlerins ne font pas d'Eid. Hein. Les pèlerins, ils vont, oui.
Il y a des groupes qui vont directement à Arafah le 8e jour de Dhul-Hijjah.
Le 9e jour ou le
8e jour, dès le début, ils vont direct à Arafah. Ils ne passent pas par Mina. Ils vont direct à Arafah, ils passent la nuit, et le lendemain, c'est.
C'est Arafah. Allahu a'lam. Je ne sais pas. Toi, tu l'as vécu, toi, là-bas ?
Non, je l'ai vécu, mais je ne l'ai pas fait dans ce sens-là.
Oui, tu as resté à Mina quelques.
J'ai fait Mina le lendemain à Arafah. Mais c'est des groupes d'Algériens qui ont fait Arafah, qui sont partis directement à Arafah.
D'accord. Dans le pèlerinage, il faut savoir une chose. Si, avec chaque groupe, chaque pays, ils ont des muftis. Ils ont des gens compétents. Et à mon avis, les gens ne vont pas faire quelque chose qui contredit. Il y a quand même une divergence dans les rites entre les madhab. Donc tu trouves le madhab al-Maliki, il autorise quelque chose, le madhab al-Hanafi, il interdit quelque chose que l'autre madhab autorise, mais tous les madhab sont d'accord sur les principes. C'est quoi les principes? C'est le tawaf, d'accord, tawaf, c'est al-sa'i, c'est al-halq, d'accord, le fait de se raser, c'est Arafa, le jour de Arafa, c'est le mabit bimina, donc quelques jours à Mina, au moins trois jours, et c'est tawaf al-ifada par la suite qui est obligatoire, et al-nahr. Donc ça, c'est tout le monde est d'accord.
Rajm.
Hein? Rajm, bien sûr. Rajm aussi, les trois. Mina, quand on dit Mina, c'était aussi pour faire la lapidation des stèles. Ça, tout le monde est d'accord. Mais est-ce que. Il y en a qui exigent, par exemple, quand on arrive à Muzdalifa, il faut absolument passer toute la nuit à Muzdalifa jusqu'au Fajr. Il y en a qui considèrent ça comme obligation. D'autres, non, ils disent non, ce n'est pas une obligation. Allah dit, la halte est obligatoire, le fait de s'arrêter c'est obligatoire, mais de dormir là-bas jusqu'au Fajr, ce n'est pas obligatoire. Et donc, si on veut faire le pèlerinage dans sa forme la plus complète, on peut faire quelques sunnahs en plus. Mais une sunna, par définition, c'est quoi une sunna? Par définition, il y a ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé. Ce qui est obligatoire par définition, si tu ne le fais pas, ton hajj ne compte pas. Ou tu dois réparer ton hajj. Tu fais un péché. Quand tu as quelque chose qui est obligatoire et tu ne fais pas l'obligatoire, ben tu fais un péché. Quand tu as quelque chose qui est recommandé et tu ne fais pas le recommandé, est-ce que tu as fait un péché? Non. Non, parce que c'est recommandé. Donc c'est pour ça que on trouvera certainement beaucoup de divergences, mais ces divergences ne concernent que certaines recommandations et non pas le fond du hajj. Donc le jour de Arafat, c'est demain. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pendant le jour de Arafat? Ben, à partir de Salat al-Dhuhr jusqu'à Salat al-Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le dua. Et donc demain, nous, si on peut le faire, si on jeûne et on dit après Salat al-Asr, je vais m'asseoir, je vais me reposer, je vais faire que des invocations. Des invocations, soit des invocations que je lis sur un livre, soit je lève les mains et je demande à Allah ce qu'il y a dans mon cœur. Vous avez tellement de choses à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une occasion en or. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est certain, que demain, la miséricorde d'Allah descend sur terre. On est certain parce que, alhamdulillah, c'est la seule année où tout le monde est d'accord sur Arafat. D'habitude, l'Arabie Saoudite dit comme ça, le Pakistan dit comme ça, le Maroc dit comme ça. Et là, donc, alhamdulillah, cette année, partout dans le monde, c'est demain. Alhamdulillah. Même si en réalité, pour Arafat, on doit voir Saoudi, on doit être avec l'Arabie Saoudite parce que c'est là-bas Arafat. Si les gens font Arafat là-bas, comment toi tu peux faire Arafat à un jour différent? Non. Parce que les gens sont réunis ce jour-là. Tu dois être avec eux en communion, comme on dit. Hein. On est en communication spirituelle avec les gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A levé les mains le jour de Arafat. Regardez jusqu'au point, il était après l'Asr, il a levé les mains, on dit, il n'a pas baissé ses mains jusqu'à Salat al-Maghrib, jusqu'à Adhan al-Maghrib, jusqu'au jeûne. Il avait soif, il demande de l'eau, on lui donne de l'eau, il laisse la main gauche levée, et il boit avec la main droite, et la main gauche elle était encore levée, c'est-à-dire qu'il ne veut pas la baisser. Tellement il était absorbé par l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdoulilah, c'est une occasion qu'Allah nous donne à travers le jour de Arafat pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour faire des invocations. Et les invocations, alhamdoulilah, tout type d'invocations, les invocations recommandées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et mes propres invocations. J'ai des demandes, j'ai des enfants, on a tous des soucis de la vie. On espère tous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir nos malades. On demande Allah pour nos parents. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance. Et qu'Allah choisit pour nous les meilleurs choix dans notre vie. Dans tout ce qu'on fait, qu'Allah nous guide toujours vers le bien. Donc contrairement aux mérites du mois de Ramadan, qui sont désormais connus, ceux du mois de Dhul-Hijja sont moins connus. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces jours, en ces 10 jours. » Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc ce qui est recommandé de faire pendant ces 10 jours, il est recommandé en premier lieu d'accomplir le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Et ça, c'est un point important. Le pèlerinage, c'est une obligation religieuse. Et chaque musulman, jeune ou adulte, bien avancé, bien âgé, il doit réfléchir, il doit penser au pèlerinage. D'accord ? Il doit faire un plan dans sa tête. D'accord ? Bismillah, je commence à mettre de l'argent de côté pour que dans 5 ans, dans 7 ans, je vais au pèlerinage. Ça, c'est un plan qui doit être dans l'esprit de chaque musulman. Pourquoi ? Parce que Bouniyel Islam wa ala khams. L'islam est édifié sur 5 piliers. Et parmi les 5, wa hajjul bayti liman istata'a ilayhi sabila. Et le pèlerinage, oui.
واللي عنده الفلوس يا شيخ عنده الارجون وما مشاش لحج فما حديث يقول لك متى يهوديه ونصراني
بارك الله فيك اكزاكتو celui qui a les moyens physiques et matériels et qui peut prendre des congés sans problème il peut il y a pas de c'est 15 jours le hajj c'est 15 jours aujourd'hui c'est pas plus et qui ne le fait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menacé il dit celui qui a les moyens de faire le hajj et ne le fait pas qu'il meure juif ou chrétien. Vous voyez un peu la menace, c'est quand même quelque chose. Donc, celui qui n'a pas les moyens, il se dit, je vais petit à petit me préparer, bien, c'est une bonne chose. Mais celui qui a les moyens, alhamdoulilah, il faut... Il y a une tradition, c'est que on fait le pèlerinage quand on dépasse 70 ans. Des gens ils croient que le pèlerinage, il faut le faire quand on est vieux. Et uniquement, le pèlerinage, c'est que pour les vieux. Non, le pèlerinage, faites-le quand vous êtes jeune. Et vous allez voir que vous allez le faire beaucoup mieux. Au moins, faites votre pèlerinage obligatoire jeune. Et après, il y a même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui recommande de faire le pèlerinage, de renouveler le pèlerinage chaque 5 années. Il y a un hadith qui n'est pas forcément à 100% fort, mais qui dit, qui espère que le musulman visite et fait son pèlerinage chaque 5 années. D'accord. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quand on est jeune et quand on a les moyens, de faire son pèlerinage, et après, quand on avance dans l'âge, et si je peux le faire chaque quelques années, c'est pas forcément chaque année, c'est pas... Le professeur Hassan, un jour... Il a dit, Ya ayyuhan nas, inna Allah qad kataba alaykum al-hajj. Ô homme, Allah vous a prescrit le jeûne, le pèlerinage. Il y a un homme qui se lève. Ya Rasulallah, a kulla sana. Ya Rasulallah, a kulla sana. Et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien. Donc l'homme, il se lève pour dire, Ya Rasulallah, on doit le faire chaque année. Et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien. Et l'homme répète la question. Ya Rasulallah, kulla sana. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien. Et la troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, il lui a dit, Da'ouni ma taraktukum. Laissez-moi, du moment où je ne vous dis pas quelque chose, ne cherchez pas à vous imposer des choses au-delà de vos capacités. Et si je vous dis oui chaque année, est-ce que vous aurez la possibilité de le faire? Non, vous aurez. Même la Umrah, on ne le fait pas chaque année. Mais si, donc il dit, laissez-moi, parce que Allah peut vous imposer des choses au-delà de vos capacités, par vos questionnements. Alors regardez l'histoire de la vache avec le peuple d'Israël. Qawm Moussa. Donc vous avez une partie de Qawm Moussa Moussa alayhi salam, il leur dit, Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Une vache. Une vache. D'accord ? N'importe quelle vache. Et vous avez tous lu ce passage dans le Coran Karim. Ils disent, mais quelle vache ? Quel type de vache ? Ben, juste une vache comme ça. C'est pas... Nous, il nous faut quelque chose de précis. Mais Moussa alayhi salam, il leur dit, donc, Allah vous dit que c'est une vache de telle nature et de telle nature et de telle nature. Allez, première question. Mais la deuxième question, bien Moussa, mais quelle est la couleur de cette vache ? Pourquoi tu cherches la couleur de la vache ? Allah t'a dit une vache, fais ce que Allah te demande. Moussa revient. C'est une vache jaune. Jaune, rare. C'est-à-dire, rare les vaches. Et après, ils disent, Inna al-baqara tashaba alayna, on n'a pas pu choisir. Demande à ton Dieu de nous dire exactement laquelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une vache, une seule, qui peuvent. Et cette vache-là, ils l'ont achetée avec son prix en or. J'ai pas voulu tout détailler, mais c'est juste pour vous dire que du moment où Allah leur dit quelque chose, ben on pose des questions pour compliquer, on pose des questions. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas beaucoup qu'on lui posait des questions, parce que ça risque de rigidifier la religion, rendre la religion que des carcans, que des rites comme ça, sans l'esprit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, alors qu'un musulman, quand Allah lui demande quelque chose, il dit sami'na wa ata'na. Il exécute l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a dit une vache, ben, c'est-à-dire que si n'importe quelle vache peut suffire. Et on fait ce que Allah nous a demandé. D'accord ? C'est pour ça que la sourate al-Baqara, pourquoi Allah l'a nommée sourate al-Baqara ? C'est par rapport à cette vache-là dont on est en train de parler. La plus grande sourate du Coran est appelée sourate al-Baqara pour nous donner un exemple, pour nous dire ne soyez pas comme ces gens-là qui discutent et qui vont s'attarder sur les formalités et oublier le sens et le fond de ce qu'Allah leur demande. C'est pour ça qu'Allah a appelé cette sourate sourate al-Baqara. Et c'est pour ça que cette sourate, à la fin de cette sourate, les versets Aman al-Rasul, que disent les musulmans ? Waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Nous musulmans, quand Allah nous demande quelque chose, on ne va pas dire ya Moussa irji' ila rabbika, demande à ton Seigneur de, ou ya Muhammad, demande à ton Seigneur. Non, Allah nous dit quelque chose, on le fait. Sami'na, nous avons entendu et nous obéissons à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah a des occasions dans cette année, dans le temps, et on doit saisir les occasions. Et la journée de demain, c'est une grande occasion. D'une manière générale, il est recommandé pendant ces 10 jours de saisir cette occasion pour accomplir le maximum de bien et d'éviter les péchés. Et surtout, de se rappeler le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah, exalté soit-il, et au cours desquels les œuvres sont plus aimées. » Ça, c'est quelque chose de formidable. Allah aime nos œuvres. Elles sont lourdes dans la balance, et Allah aime les œuvres pendant ces jours-là. Une sadaqa donnée pendant ces jours-là, elle est plus importante, elle est plus récompensée qu'une sadaqa donnée en dehors de ces jours-là. Comme pour le mois de Ramadan, pareil. Et peut-être même, ces jours sont plus importants que les jours du mois de Ramadan. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucune action plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala que les actions faites durant ces 10 jours. Donc, durant cette période, répétez les formules Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Hadith rapporté par Tabarani. Allah nous dit pour participer aux bienfaits du pèlerinage et invoquer le nom du Seigneur. Wa tadhkuru smallahi. D'accord ? Au jour fixé. Les jours fixés pour les pèlerins, comme on l'a dit tout à l'heure, les pèlerins le pèlerinage il va commencer le 8e jour. Aujourd'hui, les pèlerins sont à Mina, s'installent à Mina. Aujourd'hui, on l'appelle Yawm al-Tarwiya. Yawm al-Tarwiya, aujourd'hui là. Et demain, c'est Yawm al-Arafah. Demain, c'est le jour de Arafah. Et le troisième jour, c'est le dixième jour, c'est Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice. D'accord ? Al-Nahr, c'est une. Al-Nahr, c'est quoi ? Nahara al-Naqata ou Nahara al-Jamal. C'est tuer, hein, sacrifier. Pour un mouton, on dit dhabaha. Mais pour un chameau, on dit nahara. Parce que le chameau, on ne l'égorge pas comme un mouton. Hein, parce que le chameau, il est grand. Et donc, on fait un nahar. Donc, c'est avec un couteau et on le fait verticalement et non pas horizontalement. D'accord ? Et on appelle cette procédure-là un nahar. Fa'ida wajabat junubuha. On a dit que quand elle tombe, les chameaux, quand ils tombent, donc, c'est par la procédure de Nahr. Nahr se fait comme ça. Et généralement, les Arabes, quand ils disent Nahr, d'une manière générale, ça peut s'appliquer à tous les animaux, d'une manière un peu générale. Alors que quand on parle des moutons ou des vaches, on dit Al-Dhabh. Et quand on parle des chameaux, on dit Nahr. Pourquoi ? Parce que les Arabes avaient l'habitude plutôt de sacrifier les chameaux devant la Kaaba pour nourrir les pauvres et les indigents. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanha. Et de ce verset-là, les savants disent que un nahr ne peut être fait que après la prière. Est-ce que Allah dit fa salli li rabbika wanha. Prie et puis sacrifie. Tu ne peux pas inverser. Fassalli li rabbika wanha. Inna shani'aka huwa al-abtar. L'imam al-Bukhari dit dans son sahih, Ibn Umar et Abu Huraira, qu'Allah les agrée, allez au marché pendant les 10 jours de l'Hijja et répétez Allahu Akbar, Allahu Akbar, et les gens répétaient derrière eux. Juste comme ça. Ils vont juste comme ça au marché, pas pour acheter et vendre, mais juste pour rappeler aux gens que ces jours-là sont des jours importants, des jours bénis, des jours qu'Allah aime, pendant lesquels Allah aime les bonnes œuvres pour eux. Et donc, ils allaient au marché, Abu Huraira, radiallahu anhu, pour crier comme ça et dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et quand les gens les entendent au marché, ben les gens commencent à dire Allahu Akbar comme eux. Donc, parce que c'est une recommandation. Le jeûne de ces jours-là est préconisé, et notamment bien sûr le jour de Arafah, qui correspond, inchallah, à demain. Et comme on a dit, il a été rapporté dans Sahih Muslim que le jeûne de Arafah absout les péchés de 2 années, une année antérieure et une année ultérieure. Le 10e jour de l'Hijja coïncide avec le jour de l'Eid. Yawm al-Nahr, on dit Yawm al-Nahr. Et donc le Eid, ici on l'a fixé à 7h du matin, Inch'Allah, Salatul Eid. Donc les gens se préparent pour venir à la prière de l'Eid. Et ils amènent avec eux leurs enfants, leurs femmes. Même les femmes indisposées peuvent venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, c'est pour ça qu'il ne faisait pas la prière de l'Eid à l'intérieur de la mosquée. Et même si c'est fait à l'intérieur de la mosquée, certains savants ils disent c'est pas grave, elles viennent et elles s'isolent. Elles se mettent, les femmes qui sont indisposées, qui ne peuvent pas prier, ben elles viennent pour profiter de du'a al-mu'minin pour être avec les gens. Alhamdulillah, nous on le fait dans un stade, il n'y a aucun problème. Les femmes, même indisposées, peuvent venir et elles s'écartent un peu tout simplement quand les gens prient. Et après, elles profitent de la khutba, elles profitent des invocations, bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas une œuvre meilleure que le sacrifice. Hein, le sacrifice, c'est quelque chose de très très recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le chameau ou la vache ou le mouton viendra le jour du jugement dernier et la personne qui a sacrifié aura pour chaque poil une hasan. Et à vous de compte, pour chaque poil une hasan. Donc le sacrifice, c'est quelque chose de, de très très recommandé donc pour nous musulmans pendant le mois, pendant ce jour-là. Et celui qui ne peut pas le faire, ben, il peut déléguer. Il peut déléguer. Il peut par exemple dire à quelqu'un qui est dans un pays pauvre, ben, je te donne l'argent, tu achètes un mouton et tu le sacrifies, mais en moment, d'accord ? Et tu prends la viande. Mais quand tu vas sacrifier, qu'est-ce que tu dois dire ? Bismillah wa Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilayk. Bismillah wa Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilayk. Allahumma hadha anni wa an ahli bayti. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, trois choses. Bismillah wa Allahu Akbar, ça. Bismillah wa Allahu Akbar, pour le sacrifice, c'est obligatoire. Pourquoi ? Parce que tu es en train de ôter une vie. Tu tues un animal quand même. Et tu tues un animal pour manger, pour eux. Donc tu demandes l'autorisation à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? C'est pas un acte anodin. Bismillah wa Allahu Akbar. Et après tu dis Allahumma minka wa ilayk. Et Allah, c'est de toi et pour toi. Et tu dis Allahumma inna hadha anni wa an ahli bayti. Et Allah, ce sacrifice est pour moi et les gens de ma famille. Et tu le tues selon les règles de l'islam. Et la personne qui le fait à ta place, si tu donnes une délégation, cette personne va dire Bismillah wa Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilayk, Allahumma inna hadha an fulan ibn fulan wa ahli bayti. Hein? Tu dis à la personne, quand tu tues l'animal, quand tu sacrifies l'animal, ben tu cites mon nom, parce que c'est mon sacrifice, et tu profites de la viande, il n'y a aucun problème. Parce que quelqu'un qui est pauvre, et qui est dans un autre pays, il est pauvre, est-ce qu'il a l'obligation de sacrifier ? Non, il est pauvre. Mais toi, tu as quand même une très grande recommandation de sacrifier. S'il le fait en son nom, si tu lui donnes de l'argent, il le fait en son nom, ben, c'est que lui, c'est pas obligatoire pour lui, il l'a fait. Et toi, qui c'est très recommandé pour toi, et tu ne l'as pas fait. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا إن شاء الله نتواصى بهذا الصيام صيام يوم عرفة بإذن الله سبحانه وتعالى والدعاء من صلاة العصر صلاة المغرب يجلس الإنسان يرفع يديه ويدعو الله بما شاء يسبح يحمد الله يستغفر الله سبحانه وتعالى il demande à Allah سبحانه وتعالى pardon donc de صلاة العصر jusqu'à un peu avant le maghrib c'est vraiment des moments très importants et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala descend pendant ce jour-là. Donc quand les anges descendent, il faut qu'ils nous trouvent en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala sa bénédiction. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.